Honoré de Balzac. Illusion perdue. Après le départ de son beau-frère pour Paris, David Séchard, ce bœuf, courageux et intelligent, comme celui que les peintres donnent pour compagnon à l'évangéliste, n'eut qu'une idée, celle de faire une grande et rapide fortune, moins pour lui que pour Ève et pour Lucien, ces deux charmants êtres auxquels il s'était consacré. Mettre sa femme dans la sphère d'élégance et de richesse où elle devait vivre, soutenir de son bras puissant l'ambition de son frère, tel fut le programme écrit en lettres de feu devant ses yeux. Ce patient génie, mis par Lucien sur la trace d'une invention dont s'était occupé Chardon, le père, et dont la nécessité devait se faire sentir de jour en jour, se livra, sans en rien dire à personne, pas même à sa femme, à cette recherche pleine de difficultés. Après avoir embrassé par un coup d'œil l'esprit de son temps, le possesseur de la pauvre imprimerie de la rue du Mûrier, écrasé par les frères Cointet, devina le rôle que l'imprimerie allait jouer. Les journaux, la politique, l'immense développement de la librairie et de la littérature, celui des sciences, la pente à une discussion publique de tous les intérêts du pays, tout le mouvement social qui se déclara lorsque la Restauration parut assise, exigeait une production de papier presque décuple comparée à la quantité sur laquelle spécula le célèbre ouvrard au commencement de la Révolution, guidé par de semblables motifs. En 1822, les papeteries étaient trop nombreuses en France pour qu'on pût espérer de s'en rendre le possesseur exclusif, comme fit Ouvrard, qui s'empara des principales usines après avoir accaparé leurs produits. David n'avait d'ailleurs ni l'audace, ni les capitaux nécessaires à de pareilles spéculations. Or, tant que pour ses fabrications, la papeterie s'en tiendrait au chiffon, le prix du papier ne pouvait que hausser. On ne force pas la production du chiffon. Le chiffon est le résultat de l'usage du linge et la population d'un pays n'en donne qu'une quantité déterminée. Cette quantité ne peut s'accroître que par une augmentation dans le chiffre des naissances. Pour opérer un changement sensible dans sa population, un pays veut un quart de siècle et de grandes révolutions dans les mœurs, dans le commerce ou dans l'agriculture. Si donc les besoins de la papeterie devenaient supérieurs à ce que la France produisait de chiffons, soit du double, soit du triple, il fallait, pour maintenir le papier à bas prix, introduire dans la fabrication du papier un élément autre que le chiffon. Ce raisonnement reposait d'ailleurs sur les faits. Les papeteries d'Angoulême, les dernières où se fabriquèrent des papiers avec du chiffon de fil, voyaient le coton envahissant la pâte dans une progression effrayante. En même temps que Lord Stanhope inventait la presse en fer et qu'on parlait des presses mécaniques de l'Amérique, la mécanique à faire le papier de toute longueur commençait à fonctionner en Angleterre. Ainsi, les moyens s'adaptaient aux besoins de la civilisation française actuelle, qui repose sur la discussion étendue à tout et sur une perpétuelle manifestation de la pensée individuelle. Un vrai malheur, car les peuples qui délibèrent agissent très peu. Chose étrange. Pendant que Lucien entrait dans les rouages de l'immense machine du journalisme, au risque d'y laisser son honneur et son intelligence en lambeaux, David Séchard, du fond de son imprimerie, embrassait le mouvement de la presse périodique dans ses conséquences matérielles. Armé par Lucien de l'idée première que M. Chardon père avait eue sur la solution de ce problème d'industrie, il voulait mettre les moyens en harmonie avec le résultat vers lequel tendait l'esprit du siècle. Enfin, il voyait juste, en cherchant une fortune, dans la fabrication du papier à bas prix, car l'événement a justifié la prévoyance du sagace imprimeur d'Angoulême. Pendant ces 15 dernières années, le bureau, chargé des demandes de brevets d'invention, a reçu plus de 100 requêtes de prétendues découvertes de substances à introduire dans la fabrication du papier. Ce dévoué jeune homme, certain de l'utilité de cette découverte, sans éclat, mais d'un immense profit, tomba donc, après le départ de son beau-frère pour Paris, dans la constante préoccupation que devait causer la recherche d'une pareille solution. Comme il avait épuisé toutes ses ressources pour se marier et pour subvenir aux dépenses du voyage de Lucien à Paris, il se vit au début de son mariage dans la plus profonde misère. Il avait gardé 1 000 francs pour les besoins de son imprimerie et devait un billet de pareille somme à Postel, le pharmacien. Ainsi, pour ce profond penseur, le problème fut double. Il fallait inventer et inventer promptement. Il fallait enfin adapter les profits de la découverte aux besoins de son ménage et de son commerce. Or, quelle épithète donner à la cervelle capable de secouer les cruelles préoccupations que cause et une indigence à cacher et le spectacle d'une famille sans pain et les exigences journalières d'une profession aussi méticuleuse que celle de l'imprimeur, tout en parcourant les domaines de l'inconnu avec l'ardeur et les enivrements du savant à la poursuite d'un secret qui, de jour en jour, échappe aux plus subtiles recherches. Hélas, comme on va le voir, les inventeurs ont bien encore d'autres maux à supporter, sans compter l'ingratitude des masses à qui les oisifs et les incapables disent d'un homme de génie « Ah, il était né pour devenir inventeur, il ne pouvait pas faire autre chose. Il ne faut pas plus lui savoir gré de sa découverte qu'on ne sait gré à un homme d'être né prince. Il exerce des facultés naturelles, et il a d'ailleurs trouvé sa récompense dans le travail même. » Le mariage cause à une jeune fille de profondes perturbations morales et physiques. Mais, en se mariant dans les conditions bourgeoises de la classe moyenne, elle doit de plus étudier des intérêts tout nouveaux et s'initier à des affaires. De là, pour elle, une phase où, nécessairement, elle reste en observation sans agir. L'amour de David pour sa femme en retarda malheureusement l'éducation. Il n'osa pas lui dire l'état des choses, ni le lendemain des noces, ni les jours suivants. Malgré la détresse profonde à laquelle le condamnait l'avarice de son père, le pauvre imprimeur ne put se résoudre à gâter sa lune de miel par le triste apprentissage de sa profession laborieuse et par les enseignements nécessaires à la femme d'un commerçant. Aussi, les 1 000 francs, le seul avoir, furent-ils dévorés plus par le ménage que par l'atelier. L'insouciance de David et l'ignorance de sa femme dura 3 mois. Le réveil fut terrible. À l'échéance du billet souscrit par David à Postel, le ménage se trouva sans argent, et la cause de cette dette était assez connue à Ève pour qu'elle sacrifiât à son acquittement et ses bijoux de mariée et son argenterie. Le soir même du paiement de cet effet, Ève voulut faire causer David sur ses affaires, car elle avait remarqué qu'il s'occupait de tout autre chose que de son imprimerie. En effet, dès le second mois de son mariage, David passa la majeure partie de son temps sous la pantie située au fond de la cour, dans une petite pièce qui lui servait à fondre ses rouleaux. 3 mois après son arrivée à Angoulême, il avait substitué aux pelotes à tamponner les caractères l'encrier à table et à cylindre, où l'encre se façonne et se distribue au moyen de rouleaux composés de colle forte et de mélasse. Ce premier perfectionnement de la typographie fut tellement incontestable qu'aussitôt, après en avoir vu l'effet, les frères Cointet l'adoptèrent. David avait adossé, au mur mitoyen de cette espèce de cuisine, un fourneau à bassine en cuivre, sous prétexte de dépenser moins de charbon pour refondre ses rouleaux, dont les moules rouillés étaient rangés le long de la muraille et qu'il ne refondit pas 2 fois. Non seulement il mit à cette pièce une solide porte en chêne, intérieurement garnie en tôle, mais encore il remplaça les sales carreaux du châssis d'où venait la lumière par des vitres en verre cannelé, pour empêcher de voir du dehors l'objet de ses occupations. Au premier mot que dit Ève à David au sujet de leur avenir, il la regarda d'un air inquiet et l'arrêta par ces paroles. « Mon enfant, je sais tout ce que doit inspirer la vue d'un atelier désert et l'espèce d'anéantissement commercial où je reste. Mais vois-tu, reprit-il en l'amenant à la fenêtre de leur chambre et en lui montrant le réduit mystérieux, notre fortune est là. Nous aurons à souffrir encore pendant quelques mois, mais souffrons avec patience et laisse-moi résoudre un problème d'industrie qui fera cesser toutes nos misères. » David était si bon. Son dévouement devait être si bien cru sur parole que la pauvre femme, préoccupée comme toutes les femmes de la dépense journalière, se donna pour tâche de sauver à son mari les ennuis du ménage. Elle quitta donc la jolie chambre bleue et blanche, où elle se contentait de travailler à des ouvrages de femme, en devisant avec sa mère, et descendit dans une des 2 cages de bois situées au fond de l'atelier pour étudier le mécanisme commercial de la typographie. Durant ces 3 mois, l'inerte imprimerie de David avait été désertée par les ouvriers, jusqu'alors nécessaires à ses travaux, et qui s'en allèrent un à un. Accablés de besogne, les frères Cointet employaient non seulement les ouvriers du département alléchés par la perspective de faire chez eux de fortes journées, mais encore quelques-uns de Bordeaux, d'où venaient surtout les apprentis qui se croyaient assez habiles pour se soustraire aux conditions de l'apprentissage. En examinant les ressources que pouvait présenter l'imprimerie Séchard, Ève n'y trouva plus que 3 personnes. D'abord, l'apprenti que David se plaisait à former chez les Didot, comme font presque tous les protes qui, dans le grand nombre d'ouvriers auxquels ils commandent, s'attachent plus particulièrement à quelques-uns d'entre eux. David avait emmené cet apprenti nommé Cerizet à Angoulême, où il s'était perfectionné. Puis Marion, attaché à la maison comme un chien de garde. Enfin Kolb, un Alsacien, jadis homme de peine chez messieurs Didot. Pris par le service militaire, Kolb se trouva par hasard à Angoulême, où David le reconnut à une revue, au moment où son temps de service expirait. Kolb alla voir David et s'amouracha de la grosse Marion en découvrant chez elle toutes les qualités qu'un homme de sa classe demande à une femme. Cette santé vigoureuse qui brunit les joues, cette force masculine qui permettait à Marion de soulever une forme de caractère avec aisance, cette probité religieuse à laquelle tiennent les Alsaciens, ce dévouement à ses maîtres qui révèle un bon caractère, et enfin cette économie à laquelle elle devait une petite somme de 1000 francs, du linge, des robes et des effets d'une propreté provinciale. Marion, grosse et grasse, âgée de 36 ans, assez flattée de se voir l'objet des attentions d'un cuirassier haut de 5 pieds 7 pouces, bien bâti, fort comme un bastion, lui suggéra naturellement l'idée de devenir imprimeur. Au moment où l'Alsacien reçut son congé définitif, Marion et David en avaient fait un ours assez distingué qui ne savait néanmoins ni lire ni écrire. La composition des ouvrages dits de ville ne fut pas tellement abondante pendant ce trimestre que Cérizet n'eût pu y suffire. À la fois compositeur, metteur en page et prote de l'imprimerie, Cérizet réalisait ce que Kant appelle une triplicité phénoménale. Il composait, il corrigeait sa composition, il inscrivait les commandes et dressait les factures. Mais, le plus souvent sans ouvrage, il lisait des romans dans sa cage au fond de l'atelier, attendant la commande d'une affiche ou d'un billet de faire-part. Marion, formée par ses charpères, façonnait le papier, le trempait, aidait Kolb à l'imprimer, l'étendait, le rognait et n'en faisait pas moins la cuisine, allant au marché de grand matin. Quand Ève se fit rendre compte de ce premier trimestre par Cérizet, elle trouva que la recette était de 400 francs. La dépense, à raison de 3 francs par jour pour Cérizet et Kolb, qui avaient pour leur journée l'un 2 et l'autre 1 franc, s'élevait à 300 francs. Or, comme le prix des fournitures exigées par les ouvrages fabriqués et livrés se montait à 100 et quelques francs, il fut clair pour Ève que pendant les 3 premiers mois de son mariage, David avait perdu ses loyers, l'intérêt des capitaux représentés par la valeur de son matériel et de son brevet, les gages de Marion, l'encre et enfin les bénéfices que doit faire un imprimeur. Ce monde de choses exprimé en langage d'imprimerie par le mot « étoffe », expression du haut drap, aux soieries, employée à rendre la pression de la vis moins dure au caractère par l'interposition d'un carré d'étoffe, le blanchet, entre la platine de la presse et le papier qui reçoit l'impression. Après avoir compris, en gros, les moyens de l'imprimerie et ses résultats, Ève devina combien peu de ressources offrait cet atelier, desséché par l'activité dévorante des frères Cointet, à la fois fabricants de papier, journalistes, imprimeurs, brevetés de l'évêché, fournisseurs de la ville et de la préfecture. Le journal que, 2 ans auparavant, les Séchard, père et fils, avaient vendu 22 000 francs, rapportait alors 18 000 francs par an. Ève reconnut les calculs cachés sous l'apparente générosité des frères Cointet, qui laissaient à l'imprimerie Séchard assez d'ouvrages pour subsister et pas assez pour qu'elle leur fît concurrence. En prenant la conduite des affaires, elle commença par dresser un inventaire exact de toutes les valeurs. Elle employa Kolb, Marion et Cérizet à ranger l'atelier, le nettoyer et y mettre de l'ordre. Puis, par une soirée où David revenait d'une excursion dans les champs, suivi d'une vieille femme qui lui portait un énorme paquet enveloppé de linge, Ève lui demanda des conseils pour tirer parti des débris que leur avait laissés le père Séchard, en lui promettant de diriger à elle seule les affaires. D'après l'avis de son mari, Madame Séchard employa tous les restants de papier qu'elle avait trouvés et mis par espèce à imprimer sur 2 colonnes et sur une seule feuille ces légendes populaires coloriées que les paysans collent sur les murs de leurs chaumières. L'histoire du Juif errant, Robert le Diable, la belle Maguelonne, le récit de quelques miracles. Ève fit de Kolb un colporteur. Cérizet ne perdit pas un instant. Il composa ses pages naïves et leurs grossiers ornements depuis le matin jusqu'au soir. Marion suffisait au tirage. Madame Chardon se chargea de tous les soins domestiques, car Ève coloria les gravures. En 2 mois, grâce à l'activité de Kolb et à sa probité, Madame Séchard vendit à 12 lieues à la ronde d'Angoulême 3 000 feuilles qui lui coûtèrent 30 francs à fabriquer et qui lui rapportèrent, à raison de 2 sous-pièces, 300 francs. Mais quand toutes les chaumières et les cabarets furent tapissés de ces légendes, il fallut songer à quelque autre spéculation, car l'Alsacien ne pouvait pas voyager au-delà du département. Ève, qui remuait tout dans l'imprimerie, y trouva la collection des figures nécessaires à l'impression d'un almanach dit des bergers, où les choses sont représentées par des signes, par des images, des gravures en rouge, en noir ou en bleu. Le vieux Séchard, qui ne savait ni lire ni écrire, avait jadis gagné beaucoup d'argent à imprimer ce livre destiné à ceux qui ne savent pas lire. Cet almanach, qui se vend un sou, consiste en une feuille pliée 64 fois, ce qui constitue un in 64 de 128 pages. Tout heureuse du succès de ces feuilles volantes, industrie à laquelle s'adonnent surtout les petites imprimeries de province, Madame Séchard entreprit l'almanach des bergers sur une grande échelle en y consacrant ses bénéfices. Le papier de l'almanach des bergers, dont plusieurs millions d'exemplaires se vendent annuellement en France, est plus grossier que celui de l'almanach liégeois et coûte environ 4 francs la rame. Imprimé, cette rame, qui contient 500 feuilles, se vend donc à raison d'un sou la feuille, 25 francs. Madame Séchard résolut d'employer 100 rames à un premier tirage, ce qui faisait 50 000 almanachs à placer et 2 000 francs de bénéfices à recueillir. Quoique distrait, comme devait l'être un homme si profondément occupé, David fut surpris, en donnant un coup d'œil à son atelier, d'entendre grogner une presse et de voir Cérizet toujours debout, composant sous la direction de Madame Séchard. Le jour où il entra pour surveiller les opérations entreprises par Ève, ce fut un beau triomphe pour elle que l'approbation de son mari qui trouva l'affaire de l'almanach excellente. Aussi, David promit-il ses conseils pour l'emploi des encres des diverses couleurs que nécessitent les configurations de cet almanach, où tout parle aux yeux. Enfin, il voulut refondre lui-même les rouleaux dans son atelier mystérieux pour aider, autant qu'il le pouvait, sa femme dans cette grande petite entreprise. Au milieu de cette activité furieuse, vinrent les désolantes lettres par lesquelles Lucien apprit à sa mère, à sa sœur et à son beau-frère son insuccès et sa détresse à Paris. On doit comprendre alors qu'en envoyant à cet enfant gâté 300 francs, Ève, Madame Chardon et David avaient offert au poète, chacun de leur côté, le plus pur de leur sang. Accablé par ces nouvelles et désespéré de gagner si peu en travaillant avec tant de courage, Ève n'accueillit pas sans effroi l'événement qui met le comble à la joie des jeunes ménages. En se voyant sur le point de devenir mère, elle se dit « Ah, si mon cher David n'a pas atteint le but de ses recherches au moment de mes couches, que deviendrons-nous? Et qui conduira les affaires naissantes de notre pauvre imprimerie ?» L'almanach des bergers devait être bien fini avant le 1er janvier. Or, Cérizet, sur qui roulait toute la composition, y mettait une lenteur d'autant plus désespérante que Madame Séchard ne connaissait pas assez l'imprimerie pour le réprimander. Elle se contenta, d'observer ce jeune Parisien. Orphelin du grand hospice des enfants trouvés de Paris, Cérizet avait été placé chez messieurs Didot comme apprenti. De 14 à 17 ans, il fut le séide de Séchard, qui le mit sous la direction d'un des plus habiles ouvriers et qui en fit son gamin, son page typographique. Car David s'intéressa naturellement à Cérizet en lui trouvant de l'intelligence et il conquit son affection en lui procurant quelques plaisirs et des douceurs que lui interdisait son indigence. Doué d'une assez jolie petite figure chafouine, à chevelure rousse, les yeux d'un bleu trouble, Cérizet importa les mœurs du gamin de Paris dans la capitale de Langoumois. Son esprit vif et railleur, sa malignité, l'y rendirent redoutable. Moins surveillé par David à Angoulême, soit que plus âgé, il inspira plus de confiance à son mentor, soit que l'imprimeur compta sur l'influence de la province, Cérizet devint, à l'insu de son tuteur, le don Juan en casquette de 3 ou 4 petites ouvrières, et se déprava complètement. Sa moralité, fille des cabarets parisiens, prit l'intérêt personnel pour unique loi. D'ailleurs, Cérizet qui, selon l'expression populaire, devait tirer à la conscription l'année suivante, se voyait sans carrière. Aussi fit-il des dettes en pensant que dans 6 mois, il deviendrait soldat et qu'alors, aucun de ses créanciers ne pourrait courir après lui. David conservait quelque autorité sur ce garçon, non pas à cause de son titre de maître, non pas pour s'être intéressé à lui, mais parce que l'ex-gamin de Paris reconnaissait en David une haute intelligence. Cérizet fraternisa bientôt avec les ouvriers décointés, attirés vers eux par la puissance de la veste, de la blouse, enfin par l'esprit de corps, plus influent peut-être dans les classes inférieures que dans les classes supérieures. Dans cette fréquentation, Cérizet perdit le peu de bonne doctrine que David lui avait inculquée. Néanmoins, quand on le plaisantait sur les sabots de son atelier, terme de mépris donné par les ours aux vieilles presses des Séchards, en lui montrant les magnifiques presses en fer au nombre de 12 qui fonctionnaient dans l'immense atelier des Cointets, où la seule presse en bois existant servait à faire les épreuves, il prenait encore le parti de David et jetait, avec orgueil, ses paroles au nez des blagueurs. « Avec ses sabots, mon naïf ira plus loin que les vôtres, avec leurs bilboquets en fer, d'où il ne sort que des livres de messe. Il cherche un secret qui fera la queue à toutes les imprimeries de France et de Navarre. En attendant, méchant prot à 40 sous, tu as pour bourgeois une repasseuse ?» lui répondait-on. « Tiens, elle est jolie !» répliquait Cérizet. « Et c'est plus agréable à voir que les mufles de vos bourgeois. Est-ce que la vue de sa femme te nourrit ?» De la sphère du cabaret ou de la porte de l'imprimerie où sa dispute amicale avait lieu, quelques lueurs parvinrent aux frères Cointet sur la situation de l'imprimerie Séchard. Ils apprirent la spéculation tentée par Ève, et jugèrent nécessaire d'arrêter dans son essor une entreprise qui pouvait mettre cette pauvre femme dans une voie de prospérité. Donnons-lui sur les doigts, afin de la dégoûter du commerce, se dirent les deux frères. Celui des deux Cointet qui dirigeait l'imprimerie rencontra Cérizet et lui proposa de lire des épreuves pour eux, à temps par épreuve, pour soulager leur correcteur qui ne pouvaient suffire à la lecture de leurs ouvrages. En travaillant quelques heures de nuit, Cérizet gagna plus avec les frères Cointet qu'avec David Séchard pendant sa journée. Il s'ensuivit quelques relations entre les Cointet et Cérizet, à qui l'on reconnut de grandes facultés, et complaignit d'être placé dans une situation si défavorable à ses intérêts. « Vous pourriez, lui dit un jour l'un des cointés, devenir prote d'une imprimerie considérable, où vous gagneriez 6 francs par jour, et, avec votre intelligence, vous arriveriez à vous faire intéresser un jour dans les affaires. Oh, « À quoi cela peut-il me servir d'être un bon prote ?» répondit Cérizet. « Je suis orphelin, je fais partie du contingent de l'année prochaine, et si je tombe au sort, qui est-ce qui me paiera un homme ?»« Si vous vous rendez utile, » répondit le riche imprimeur, « pourquoi ne vous avancerait-on pas la somme nécessaire à votre libération ?»« Ah, ce ne sera toujours pas mon naïf, » dit Cérizet. « Bah ! Peut-être aura-t-il trouvé le secret qu'il cherche. » Cette phrase fut dite de manière à réveiller les plus mauvaises pensées chez celui qui l'écoutait. Aussi, Cérizet lança-t-il au fabricant de papier un regard qui valait la plus pénétrante interrogation. « Je ne sais pas de quoi il s'occupe, » répondit-il prudemment en trouvant le bourgeois muet. « Mais ce n'est pas un homme à chercher des capitales dans son bas de casse. » « Tenez, mon ami, » dit l'imprimeur en prenant 6 feuilles du paroissien du diocèse et les tendant à Cérizet. « Si vous pouvez nous avoir corrigé cela pour demain, vous aurez demain 18 francs. Oh, nous ne sommes pas méchants, nous faisons gagner de l'argent aux protes de notre concurrent. Enfin, nous pourrions laisser Madame Séchard s'engager dans l'affaire de l'almanach des bergers et la ruiner. Eh bien, nous vous permettons de lui dire que nous avons entrepris un almanach des bergers et de lui faire observer qu'elle n'arrivera pas la première sur la place. » On doit comprendre maintenant pourquoi Cérizet allait si lentement sur la composition de l'almanach. En apprenant que les cointés troublaient sa pauvre petite spéculation, Ève fut saisie de terreur et voulut voir une preuve d'attachement dans la communication assez hypocritement faite par Cérizet de la concurrence qui l'attendait. Mais elle surprit bientôt chez son unique compositeur quelques indices d'une curiosité trop vive qu'elle voulut attribuer à son âge. « Cérizet, lui dit-elle un matin, vous vous posez sur le pas de la porte et vous attendez M. Séchard au passage afin d'examiner ce qu'il cache. Vous regardez dans la cour quand il sort de l'atelier à fondre les rouleaux, au lieu d'achever la composition de notre almanach. Tout cela n'est pas bien, surtout quand vous me voyez, moi, sa femme, respectant ses secrets et me donnant tant de mal pour lui laisser la liberté de se livrer à ses travaux. Si vous n'aviez pas perdu tant de temps, l'almanach serait fini. Kolb en vendrait déjà. Les cointés ne pourraient nous faire aucun tort. « Eh, madame, » répondit Cérizet, « pour 40 sous par jour que je gagne ici, croyez-vous que ce ne soit pas assez de vous faire pour 100 sous de composition ? Mais si je n'avais pas des épreuves à lire le soir pour les frères cointés, je pourrais bien me nourrir de son. Vous êtes ingrat de bonheur. Ouvrez votre chemin, » répondit Ève, atteinte au cœur moins par les reproches de Cérizet que par la grossièreté de son accent, par sa menaçante attitude et par l'agression de ses regards. « Ce ne sera toujours pas avec une femme pour bourgeois, car alors le mois n'a pas souvent 30 jours. » En se sentant blessée dans sa dignité de femme, Ève jeta sur Cérizet un regard foudroyant et remonta chez elle. Quand David vint dîner, elle lui dit « Es-tu sûr, mon ami, de ce petit drôle de Cérizet ?»«
Cérizet ?» répondit-il. « Eh, c'est mon gamin. Je l'ai formé. Je l'ai eu pour teneur de copie. Je l'ai mis à la casse. Enfin, il me doit d'être tout ce qu'il est. Autant demander à un père s'il est sûr de son enfant. »
Ève apprit à son mari que Cérizet lisait des épreuves pour le compte des cointés.
« Pauvre garçon, il faut bien qu'il vive, » répondit David avec l'humilité d'un maître qui se sentait en faute. « Oui, mais, mon ami, voici la différence qui existe entre Kolb et Cérizé. Kolb fait 20 lieues tous les jours, dépense 15 ou 20 sous, nous rapporte 7, 8, quelquefois 9 francs de feuilles vendues, et ne me demande que ses 20 sous,
sa dépense payée.
Kolb se couperait la main, plutôt que de tirer le barreau d'une presse chez les Cointet, et il ne regarderait pas les choses que tu jettes dans la cour, quand on lui offrirait 1000 écus, tandis que Cérizé les ramasse et les examine. Les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal, à l'ingratitude. Il leur faut de rudes leçons avant de reconnaître l'étendue de la corruption humaine. Puis, quand leur éducation en ce genre est faite, elles s'élèvent à une indulgence qui est le dernier degré du mépris. Bah, pure curiosité de gamin de Paris, s'écria donc David. Eh bien, mon ami, fais-moi le plaisir de descendre à l'atelier, d'examiner ce que ton gamin a composé depuis un mois, et de me dire si, pendant ce mois, il n'aurait pas dû finir notre almanach.